France Info.
Bonsoir, une double offensive à l'encontre d'Emmanuel Macron à la une des informés de France Info. Le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP engagé par des parlementaires, vous le verrez, de tous bords. Et le réquisitoire contre le président de Christian Jacob, le chef de file des Républicains à l'Assemblée. Nous évoquerons également le Brexit comme un jour sans fin et les réunions de la dernière chance pour Theresa. Mais on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. À mes côtés également, bonsoir Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Invité également Éric Delannoy, bonsoir. Vous êtes économiste, président, fondateur du cabinet de conseil Tinzing. Et à mes côtés également, bonsoir Franck Tapiro.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, président, fondateur de l'agence Hémisphère Droit, directeur général du laboratoire de marketing émotionnel d'Attaque à Lab. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Sommes-nous dans le premier épisode de TCM ? TCM, c'est tous contre Macron. Il y a d'abord cette déclaration choc de Christian Jacob qui estime que le président de la République a perdu le respect des Français. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale s'est exprimé dans l'hémicycle après Édouard Philippe venu présenter la restitution du grand débat national. On écoute Christian Jacob.
Celui qui aspirait à transformer le pays a réussi l'impensable, mettre le pays dans un état pré-insurrectionnel. Voilà la réalité. 18 mois après son élection, M. Macron a perdu la confiance. Et plus grave, il a perdu le respect des Français. En vérité, le contrat qui le lie aux Français, celui de son élection, est un contrat qui est totalement déchiré aujourd'hui. Ce n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection.
Allez, on commence avec vous, Yasmina Jaffar. Une nouvelle élection, demande de Christian Jacob ce soir.
Oui, bien sûr, immédiatement. On va tous retourner aux urnes dès demain matin. Non, Christian Jacob est très très en forme là aujourd'hui. Que va-t-il dire ?
Ça n'est qu'un extrait en plus.
Ça n'est qu'un extrait. J'ai lu absolument tout ce qu'il a dit, un manque de respect, ça va très loin. Que va-t-il dire après le 15 avril, quand Emmanuel Macron va prendre la parole, pour peut-être décevoir tout le monde ? Il ne lui restera absolument plus rien à dire, tellement l'offensive est forte là aujourd'hui. Et au bout de 5 mois, peut-être aurait-il fallu entendre ça un peu plus tôt, au moment où peut-être où le Fouquet ça brûlait, où il y avait vraiment des invectives dans tout le pays. Mais là, ça me paraît un peu trop tard ou trop tôt par rapport aux annonces qui doivent être faites. Ouais. Attendons maintenant ce qui va être dit.
Albert Zenou, il dit autre chose tout de même, Christian Jacob. Hein, il dit qu'au fond, Emmanuel Macron a voulu transformer ce pays et l'a mis en état insurrectionnel. Il fait mouche avec ça ?
D'une certaine manière, il fait mouche. On voit bien que le macronisme est un peu en panne. Le nouveau monde qu'on nous avait promis n'est pas toujours là. Pas l'avènement d'un nouveau règne avec de la bienveillance partout, c'est pas encore tout à fait ça. Les résultats, certains résultats pointent un peu le bout de leurs chiffres et le bout de leur nez, mais pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Mais Christian Jacob, il est dans son rôle. Un peu outrancier, certes, mais dans son rôle d'opposant naturel, d'opposant le premier parti d'opposition. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. On sait très bien que le président ne démissionnera pas, ne retournera pas aux urnes.
Oui, ce sont des déclarations, en fait.
Des déclarations. Donc, l'exagération...
Bon, Franck Tapiro...
On est habitué à voir Christian Jacob confondre fantasme personnel avec délire partisan. C'est pas la première fois. Et là, il est plutôt enfin, vous me dites que c'est un best-of. J'ose même pas imaginer le reste.
Alors, il a même évoqué les photos aux Antilles, LGBT, tout le reste.
Il a toujours fait ça. C'est vrai que c'est un...
Mais est-ce qu'il n'évoque pas au fond une partie de ce que ressent l'opinion tout de
Non,
même
je pense que non. On oublie qu'on est en campagne quand même. Il y a une campagne européenne qui se pointe. Et donc, on arrive aussi à des oppositions. Partisans. Alors on dit que les partis sont morts, mais les oppositions sont peut-être encore là. Donc évidemment, il y a un peu moins de vision, il y a un peu moins, on va dire, de corpus idéologique de la part des partis, mais il y a toujours cette opposition. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit plutôt des partis de proposition. Ouais. En fait, quand j'entends ces critiques, je me dis, mais ok, mais finalement, ça vient dans le brouhaha général, mais qu'est-ce que ce parti ou d'autres apportent ? Jamais des gens arrivent avec des idées, ça fait des années.
Ça fait partie aussi du corpus de l'électeur. électeur de base de LR aujourd'hui.
Oui, républicain.
Enfin, c'est républicain. Il est dans une opposition franche et massive.
C'est une campagne qui démarre. Oui. Éric Delannoy, quand le chef de file de LR parle d'élection comme un électrochoc possible, est-ce qu'au fond, ça n'aurait pas été aussi une bonne idée d'en passer par des urnes? Alors, il ne dit pas lesquelles. Il ne dit pas si c'est une présidentielle ou si ce sont les législatives.
Ça tombe bien, il y a des élections dans un mois, donc on va voir un petit peu ce qu'il va réussir à en faire.
Faux.
Donc, des élections, il y en a tout le temps. On ne va pas refaire l'élection présidentielle. Un mandat, c'est pour 5 ans. La transformation du pays avant 5 ans, ça n'a pas de sens. Donc, si on estimait que Emmanuel Macron, en moins de 2 ans, allait résoudre les problèmes qui ont été provoqués par 30 ans d'incurie politique dans lesquels Christian Jacob est parfaitement impliqué depuis très longtemps, c'était une gageure. Moi, je ne peux pas entendre des choses comme la Macron est en panne et qu'en même temps, on dise que finalement, il y a trop de réformes. Je ne peux pas entendre qu'on avait dit qu'il y avait de la bienveillance alors qu'autour, il n'y a que de la défiance et de la malveillance. Donc, à un moment, on fait ce que l'on peut. Rien n'est parfait. Mais moi, j'entends surtout un aveu d'impuissance de Christian Jacob. Et puis, j'aurais envie de lui poser la question. C'est quoi l'alternative aujourd'hui? Il aurait envie de voter Marine Le Pen. Il aurait envie de voter Macron. Enfin, en fait, non. En fait, il n'y a personne.
Albert Zénou, il n'y a pas d'alternative.
Là où la nouvelle élection aurait pleinement son sens, c'est dans le fait où ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, une sorte de peut-être de transformation qu'il va annoncer à partir du 15 avril, on sait pas trop. Ça n'était pas dans son programme initial. Plein de choses n'étaient pas dans son programme initial. Donc
par exemple?
Oui.
La réforme fiscale, par exemple, telle qu'elle est proposée, qu'elle pourrait être proposée.
C'est vrai qu'il n'y a pas de big bang fiscal à l'origine.
Les retraites. Oui.
Le big bang fiscal a eu lieu, un changement
de société, alors même que c'était pas tout à fait ça.
Mais un changement de société ne se fait pas en 2 ans, en fait. C'est ça qu'il faut entendre.
Mais on le fait pas à mi-mandat. C'est plus difficile.
On va rester sur cette offensive. Vous allez voir, il y a un autre aspect des choses dans un instant, le RIP. Mais pour l'heure, il est 20h10. Rappel de l'info. Avec vous, Solène Cressan.
Le tribunal administratif de Paris rejette les demandes de rapatriement des ressortissantes françaises et de leurs enfants retenus dans le camp de Roche situé en Syrie. Plusieurs familles ont assigné hier et aujourd'hui l'État français en référé devant le tribunal administratif de Paris en reprochant à l'État son inaction. Sans même l'examiner, le Sénat rejette le projet de loi Pacte. Le texte controversé doit être adopté définitivement par le Parlement jeudi avec un ultime vote de l'Assemblée nationale. 197 parlementaires de tous bords ont recueilli la signature nécessaire à un possible référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris voulue par le gouvernement dans cette loi Pacte, une procédure instaurée en 2008 qui n'a jamais été utilisée. Plus de 6 millions d'Israéliens appelés aux urnes depuis ce matin, élections législatives et scrutins décisifs pour l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, aux commandes depuis 2009. Il brigue un cinquième mandat. Un suspect de nouveau interpellé et placé en garde à vue après l'agression d'une femme transgenre place de la République à Paris. L'homme est soupçonné d'avoir participé aux insultes et aux coups le 31 mars dernier, en marge d'un rassemblement de la communauté algérienne. Un rassemblement de soutien à cette femme a lieu ce soir place de la République à Paris. Un partout à la mi-temps entre Nîmes et Rennes, match en retard de la 27e journée de Ligue 1. À 21h, coup d'envoi des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. 2 matchs au programme, Tottenham Manchester City et Liverpool Porto.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors il y a cette autre initiative lancée par des députés, des sénateurs pêle-mêle, socialistes, les républicains, des communistes, des membres du groupe Liberté et Territoires qui ont réussi à s'unir pour engager un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris, enfin d'ADP. C'est la première fois que le RIP, voulu par Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, c'était la révision constitutionnelle de 2008 que ce RIP donc est activé. On va rappeler la règle dans un instant. Il faut, allez, de base, 185 signataires, il y en a 197. Je vous propose d'abord d'écouter, de voir, c'est Boris Vallot, le socialiste, député des Landes et porte-parole du PS, qui lance les hostilités. Il est entouré de diverses personnalités.
L'objet de cette conférence de presse est de vous annoncer le lancement d'une initiative, de référendum d'initiative partagée, pour rendre les aéroports de Paris insusceptibles de privatisation. Il s'agit de demander aux Françaises et aux Français s'ils sont d'accord pour que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et de Paris-le-Bourget revêtent le caractère des services publics nationaux et soient propriété de la collectivité.
Alors nous allons parler du fond hein, sur cette privatisation, cession du moins des participations de l'État dans ADP. Mais d'abord, Yasmina Jaffa, tour de table avec vous. Cette image où on voit ce socialiste au fond avec des centristes, des LR, c'est une sorte d'union qui veut faire la force.
L'opposition se regroupe pour mettre de l'huile sur le feu, essayer d'expliquer qu'ils sont là, qu'ils existent. Peut-être aussi, le Sénat a eu son heure de gloire avec l'affaire Benalla et autres. Peut-être que le Parlement aussi a envie d'exister.
Vous y voyez une réplique des députés face aux sénateurs.
Oui, qui a envie d'exister un petit peu aussi. Ouais. Et on va remercier les Gilets jaunes pour beaucoup de choses. Une envie de démocratie et de discours et aussi d'utiliser enfin un outil démocratique. Depuis 2008, vous l'avez rappelé, revu par Nicolas Sarkozy. C'est un outil, on l'utilise, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que les 4500 signataires qu'il faut pour...
4 500 000
C'est incroyable
sur
comme
Internet,
chiffre.
Hein, oui.
Voilà, donc c'est une action pour agir. Mais dans les faits, est-ce que ça sera probant? Je ne suis pas convaincue. On va voir justement la difficulté avec les autres... demande de RIP, etc., dans la concrétisation du fait. C'est très bien que ça existe.
Albert Zenou, il n'y aura pas de RIC, vraisemblablement, mais il y a déjà ce RIP que personne n'a jamais utilisé. Il faut en passer aussi par le Conseil constitutionnel, voilà, pour les règles.
Pour approuver, que la question soit posée, déjà.
Qu'est-ce que signifie cet agrégat, si je puis dire, de familles politiques contre cette volonté de cette loi, on va dire, de privatisation d'ADP?
Ça montre que si ce n'est une internationale, en tous les cas, il y a des anti-libéraux qui s'unissent. Moi, qui suis.
Mais c'est le sens du RIP, hein, c'est constitutionnel.
Ah, c'est constitutionnel. De toute façon, depuis 2008, on peut faire voter. Enfin, ça n'a jamais été mis en branle puisque c'est tellement compliqué. Faut se rappeler que la dernière grande pétition sur le climat a réuni un peu plus de 2 millions de signatures, 4,5 millions. Ça va être coton quand même à récolter. Mais là, ce qu'on voit, et l'image, elle est frappante. On voit un agrégat de gens qui ne supportent pas de faire autre chose que de donner encore à l'État des missions qui ne lui appartiennent pas. Pas toujours. Oui. Est-ce que c'est dans la nature de l'État, d'un État, de contrôler un aéroport? Alors, ça, c'est la question se pose. Et RIP, pour moi, ça veut dire aussi rest in peace. Donc, est-ce que ça va aller jusque là? Ça, je ne sais pas. Mais
Franck Tapiro sur la forme.
Il m'a volé ma vanne.
Il fallait la dire en premier.
Évidemment, démocratique. Je n'ai pas osé la terre. Non, mais complètement. Rest in peace, c'est drôle. On se plaint chaque fois de ne pas avoir des appareils démocratiques, mais en fait, on en a plein, on se rend compte.
Mais oui,
on vote des lois. Les lois sont uniquement des actes de communication, je peux vous dire, depuis des années, alors que des lois remplacent des mesures qui sont déjà en place. Et le RIP, c'est bien, c'est compliqué peut-être, mais ça existe. Alors, c'est vrai qu'il y a cette comparaison qui m'amuse entre le RIP et le RIC, que les Gilets jaunes aimeraient. Alors, de là, ce que le RIP remplace le RIC, ça n'a absolument rien à voir. Côté des parlementaires, de l'autre, c'est plutôt populaire. C'est intéressant. Maintenant, ça, c'est le message qui est assez drôle. On voit des gens, finalement, qui ne sont pas d'accord, se réunir, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, avec Christian Jacob, on est dans la même valeur absolue. N'oublions pas que tout ça, c'est aussi une façon pour l'opposition, qui est aujourd'hui extrêmement large, puisque depuis 2017, on va dire, l'échiquier politique a volé en éclats, se réunir, trouver des points de ralliement, le plus petit dénominateur commun politique, ça existe, même si, autour du micro, je pense qu'il y en a certains qui étaient un peu plus d'accord avec ces postures un peu antilibérales que d'autres, mais voilà, ils veulent être sur la photo. Ça montre à quel point il y a un désarroi phénoménal, encore une fois, sur, on le rappelait tout à l'heure, sur la vision politique, sur les vrais concepts, les vraies idées, parce que de l'opposition pour de l'opposition, c'est intéressant, mais finalement, autour de ce micro, on est incapable de savoir qui fait quoi et qui pense.
Alors, justement, sur le qui fait quoi et à quoi ça sert, Éric Delannoy, 50,6%, c'est ce que détient l'État au sein d'ADP. Apparemment, il y a une sorte de cible qui est induite, c'est Vinci, hein, qui pourrait peut-être remporter ce marché.
Qui pourrait reprendre, effectivement.
Oui. Et on a su que Vinci avait été la cible des Gilets jaunes sur les autoutoroutes pendant
La cible des Gilets jaunes, en fait. Hein, donc, moi, les Gilets jaunes n'ont jamais été un référentiel pour commenter l'actualité. Donc, on va plutôt rester sur des sujets classiques. Moi, d'abord, j'étais consterné, moi, quand j'ai vu que la privatisation d'ADP faisait partie de la loi PAC. Pacte, qui est par ailleurs une loi absolument formidable pour essayer de débloquer et favoriser le développement des PME. ADP n'est pas une PME, je ne comprends pas pourquoi la privatisation d'ADP fait partie de la loi Pacte. Donc le risque qu'il y a, c'est que cette initiative, qui est une initiative légitime, moi ça ne me pose pas de problème qu'on veuille faire en sorte de contester par les moyens institutionnels légitimes. En revanche, que ça bloque, parce qu'on est parti pour 18 mois avec le RIP, hein, que ça bloque la loi Pacte, il va falloir trouver un moyen pour décorréler la calendrier. Sinon, on va vraiment...
Oui, c'est un aspect des choses qui est quand même compliqué. Oui.
C'est un aspect des choses qui est compliqué. Il va falloir trouver des moyens parce qu'encore une fois, si on veut que les choses changent dans ce pays, il ne faut pas qu'à chaque fois on mette 3 ans pour voter une loi qui va favoriser les entreprises, qui va débloquer la situation économique. Après, on dira on n'a rien fait. Mais si on ne se donne pas les moyens de faire, on ne fait rien.
A priori, le RIP, même si... Enfin, il faudrait à peu près 9 mois. Enfin, les initiateurs ont jusqu'à 9 mois pour réunir les 4 500 000 signatures. Mais ça n'empêcherait pas l'adoption ni de la loi, ni son application.
Alors, il y en a un qui aurait bien aimé parler d'ADP, mais il en a été empêché. C'est, eh bien, monsieur Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, s'il vous plaît, qui était donc l'invité ce matin d'un collectif baptisé Opération Spéciale Gilets jaunes, invité par la sénatrice centriste Catherine Fournier, qui préside la commission spéciale sur le projet Pacte au Sénat. Eh bien, cette réunion a été annulée. Écoutez ce qu'en a dit Éric Drouet, qui a vu la main du gouvernement.
Ça prouve bien aujourd'hui encore qu'on ne veut vraiment pas ouvrir une discussion avec les Gilets jaunes. On est ouvert, on est présent. Là, on a pris un rendez-vous, on était là, prêt à discuter. Et encore une fois, on s'oppose à un mur. Ça n'avait pas du Sénat, je pense, mais plutôt du gouvernement. C'est dommage.
Éric Delannoy, sur cette invitation lancée par cette sénatrice centriste.
Alors déjà, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, hein, puisque a priori ce qui se serait passé, c'est que le Sénat avait prévu de recevoir une délégation des salariés d'ADP Gilets jaunes pour avoir leur opinion en tant que salarié d'ADP sur la privation d'ADP et que Éric Drouet s'est greffé. Merci. Comme un parasite sur cette réunion-là, et il a été, enfin, c'est pour ça que c'était annulé au dernier moment, c'est qu'il l'a prévenu au dernier moment. Enfin, encore une fois, je veux dire, moi, j'ai une seule question. C'est quoi la légitimité de ce type-là qui appelle à l'insurrection depuis 3 mois pour participer à une réunion comme celle-là? Je veux dire, ça n'aurait même pas dû exister. Donc, quand on en parle pendant 10 minutes, je trouve que ça fait 10 minutes de trop.
Ah non, oui. Ça fait juste 2 minutes pour l'instant.
je trouve que c'est tout de même bien fait parce qu'avant votre intervention, on est absolument convaincu que, il a pas pu rentrer au Sénat et qu'il était totalement invité. Il le communique très très bien malheureusement. Et c'est vrai que toute cette
je serais curieux de savoir qui lui fait le pantalon à la croix et qui le finance.
Non,
Je pense qu'il a pas mal de mythomanes.
Sur France Info, rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Theresa May à l'Élysée pour une rencontre avec Emmanuel Macron. La première ministre britannique est en mission diplomatique pour plaider un nouveau report du Brexit à la veille d'un sommet européen à Bruxelles. Plus tôt dans la journée, elle a rencontré Angela Merkel, la chancelière allemande, qui juge possible un report du divorce jusqu'à début 2020 pour éviter un Brexit, dit-elle, désordonné. Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale pour tirer le bilan du grand débat, censé répondre à la crise des Gilets jaunes. Devant les députés, le Premier ministre est revenu une nouvelle fois sur l'exaspération fiscale ressentie par les Français. Il a aussi affirmé qu'Emmanuel Macron rendrait ses conclusions bientôt. Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a donc un nouveau président, déjà bien connu, Abdelkader Ben Salah, jusqu'ici à la tête du Sénat. Il doit assurer l'intérim pendant 3 mois en attendant des élections. Mais cette nomination n'a pas calmé la colère des rues. Des milliers d'étudiants ont manifesté aujourd'hui à Alger avec comme slogan « Ben Salah dégage ». 1 an et demi de prison ferme requis à l'encontre du gérant du restaurant Casa Nostra, jugé avec un autre homme pour s'être fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre 2015. Il avait fait croire qu'il était présent dans son restaurant et avait perçu des indemnités. Le corps d'un alpiniste français disparu depuis dimanche, retrouvé dans le Val d'Aran en Espagne. L'homme de 59 ans a fait une chute de plus de 150 mètres. C'est la garde civile espagnole qui a retrouvé son corps dans des conditions de sauvetage compliquées à cause des chutes de neige et des risques d'avalanche.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci Solène Cressant. Vous évoquiez à l'instant justement Édouard Philippe qui s'est exprimé effectivement devant l'Assemblée nationale. C'était prévu hein, pour décliner, si je puis dire, cette restitution du grand débat national. Tout à l'heure, on a entendu finalement Christian Jacob qui critiquait peut-être ce trop-plein de transformations dans le pays. Eh bien, Édouard Philippe a évidemment défendu exactement le contraire. On l'écoute.
Ce n'est pas le statu quo dont la France a besoin. Mais c'est de transformation, pas de violence, mais de dialogue, de courage et de vérité. C'est ce à quoi nous a invités depuis 2 ans le président de la République. C'est ce qui fait que, venus d'horizons divers, les élus de la majorité sont réunis autour de lui, sur ses bancs. Je vous remercie.
Yasmina Jaffar, le Premier ministre a dit « je retiens un puissant besoin de, oui. de transformation ». Donc c'est exactement l'inverse.
Complètement l'inverse. Transformation a été citée, je crois, 6 fois. C'est vraiment, clairement, aujourd'hui, un élément de langage totalement assumé par En Marche. On a eu le sentiment là de son discours de programme de politique générale, le jour où il est arrivé au pouvoir. On a eu le sentiment d'une envie de séduction, en même temps d'explication, de mea culpa aussi mélangée avec cette phrase qui est « nous nous sommes trompé de méthode, mais nous gardons le cap ». Il y a le mot cap qui est revenu. C'est-à-dire que on montre bien là que la fiscalité, c'est un objectif de droite, la droite qu'ils représentent, mais en tout cas qu'ils ne vont pas changer de cap, même s'ils vont présenter quelque chose de très probant autour de la fiscalité.
On va en parler dans un instant de la fiscalité dans le détail, mais sur le principe, Albert Zenou, est-ce à dire que les réformes engagées depuis 2 ans, presque 2 ans, on va dire, par le gouvernement, clairement assumées depuis le début du quinquennat, étaient trop timides, insuffisantes, puisque là, on va tout changer, alors que finalement, il y a eu déjà une vaste transformation qui a été revendiquée depuis.
On nous avait vendu la transformation depuis très longtemps. Là, visiblement, elle n'est pas encore aboutie. Moi, ce qui m'étonne toujours, mais je reviens après à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on parle de transformation sans donner de cap, sans donner de précision, on change pas de cap, mais quel est-il ? Quelle est la voie ? Quel est le chemin ? Quelle est cette nouvelle société, du temps de Chaban-Delmas, dans 50 ans, on va fêter bientôt le 50e anniversaire de son discours sur la nouvelle société. Mais au moins, il y avait un souffle. Là, il n'y a pas de souffle.
C'est
la transformation pour la transformation pour la transformation.
Éric Delannoy, pas de souffle, dit Albert Zenou.
Non, mais ce qui est assez étonnant, souvenons-nous de la campagne présidentielle, quand Emmanuel Macron donnait sa vision pour la France, on disait, oh là là, il est trop général, c'est un philosophe, et en fait, il va pas dans le détail, et en fait, il fera rien. Maintenant qu'on met en œuvre méthodiquement son libéré et protégé, qui était le leitmotiv de la campagne, qui donne à lui seul l'ambition qu'il avait pour la France. Enfin, je veux dire, la transformation,
on refait la présidentielle.
Mais non, c'est pas qu'on refait la présidentielle. Il y en a qui aimeraient bien la refaire, mais moi, je la refais pas.
C'est le troisième match.
J'aimerais remettre en perspective ce qui a été fait depuis le quinquennat. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à lire la dernière note semestrielle de l'INSEE, cette espèce d'organisme statistique qui est à la main du pouvoir dans cette dictature insupportable, où en gros, l'INSEE prend acte que depuis le début du quinquennat, on a les chiffres qui s'améliorent et des chiffres qui témoignent à la fois que la précarité du travail diminue et que le chômage baisse. Alors on peut très bien ne pas voir ça, on peut continuer à prétendre que tout ça c'est conjoncturel, mais en fait on ne trouvera jamais les moyens de dire que ce qui est fait a du sens et va dans le bon sens.
Franck Tapiro, il y aurait donc un petit problème de communication si l'on en croit Éric Delannoy.
Oui, mais c'est un problème, c'est normal, c'est un problème de timing.
C'est
du teasing. On n'a pas de révélation. Il est obligé de gagner du temps. Il achète du temps. Il n'y a pas encore de mesures exposées. On vient de finir à peine le débat. On sait très bien que des mesures doivent arriver. Et on sait très bien, et disons-le clairement, que quoi qu'il arrive, il y aura une déception. Parce que la dialectique n'est pas la même entre l'attente et la proposition. Donc on a un peuple qui attend légitimement plein de choses tout de suite. Tout de suite, comme l'argent qu'il y a eu juste avant qu'on annonce.
10 milliards.
Et maintenant, on attend quelque chose immédiatement. Mais personne au monde ne peut dire qu'un politique va donner une mesure qui aura son application le lendemain. Ça n'existe pas déjà, parce que on est dans une démocratie. Il y a la chambre chaude et la chambre froide, en gros l'Assemblée et le Sénat. On sait très bien que ça prend du temps. Et on sait très bien qu'au moment où on lance une loi, une mesure aussi forte et bonne soit-elle, il faut attendre parfois 1 an et demi, 2 ans dans le meilleur des cas. Donc, il gagne du temps. Et moi, je pense que c'est une erreur, parce qu'il devrait au contraire dire, quoi qu'il arrive,
il y aura une déception parce que ce qu'on peut
ils l'ont dit, il ne va pas faire le chèque.
Oui, mais quand
Emmanuel Macron, il y a trois jours. En Bretagne, il y a quelques jours, il a bien dit je prends ma part de responsabilité, sachez que je ne pourrai absolument pas satisfaire tout le monde. Il le dit depuis à peu près trois semaines.
Albert Zenou,
on ne peut pas l'entendre.
Ce qui est incroyable, c'est que Macron est arrivé sur le marché politique en 2016 avec l'idée du pragmatisme. On était finalement et de droite et de gauche, on prendra les meilleures choses à droite et à gauche, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Et sans donner de marche à suivre. Il a fallu quand même, ce qui est incroyable, presque deux ans de quinquennat pour que ces conseillers, Ismaël Emelien et Amiel, sortent un livre qui donne un peu la philosophie du macronisme. Ça aurait dû être la base.
En amont.
On arrive au bout de deux ans. Et donc, la transformation, on l'attend.
Allez, puisqu'on parle de transformation, nous parlerons de baisse d'impôts. Tiens, dans un instant, juste après la météo et le rappel de l'info, nous marquons une pause pour ces informés. Je vous dis à tout de suite.
Je m'appelle Alban Dogliani, je recrute avec LinkedIn Jobs. J'étais à la recherche d'un commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan. Il a un grand sens du service client et des relations humaines.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier et bénéficiez de 50€ de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
France Info Météo. Avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
La météo, le rappel des prévisions avec vous, Sébastien Léas de Météo France.
Début de journée gris et humide sur le Nord-Bretagne et de la Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est. Cette perturbation va un peu se décaler vers le sud l'après-midi, s'étendant entre la Bretagne et la Normandie jusqu'aux Ardennes, à l'Alsace et au Jura. Sur le Nord-Pas-de-Calais, le ciel va s'éclaircir assez nettement. Entre la Vendée et les Landes, l'Île-de-France et le Limousin jusqu'en Franche-Comté et aux Alpes du Nord, les éclaircies seront belles en matinée, mais il faudra parfois attendre la dissipation des brouillards et des nuages bas du lever du jour. Au sud de la Loire, les éclaircies résisteront, même si quelques averses pourront se développer demain après-midi. Plus au sud, la journée sera encore instable avec un ciel nuageux et des passages d'averses. Entre le sud Auvergne, la Provence et la Corse, des orages pourront éclater dès le matin. Le risque d'orage sera plus généralisé l'après-midi avec même de la grêle possible à l'est du Rhône. Côté température, les maximales seront en baisse sur le nord-ouest et stationnaires ailleurs. Il fera 11 degrés au Havre et à Brest, 14 degrés à Lille et Strasbourg, 15 degrés à Paris, Tours et Besançon, mais 17 degrés à Bordeaux et 19 degrés à Marseille.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Julien Longlet.
Bonsoir Jean-François. La tournée de mai pour repousser le Brexit à demain. La première ministre britannique était à Berlin ce matin, à Paris ce soir, où Emmanuel Macron a laissé entrevoir son accord à un éventuel report. La balle est maintenant dans le camp des Anglais. Ils ont 24 heures pour faire des propositions à l'Union européenne avant le Conseil européen donc de demain. Antoine Gignot.
Pour organiser un report du Brexit, Emmanuel Macron, à Paris, comme Angela Merkel à Berlin, demande des garanties. Garanties d'abord que le Royaume-Uni, dans les semaines qui viennent, n'essaiera pas de perturber de l'intérieur le fonctionnement de l'Union européenne, et garanties surtout qu'il existe bien un plan, une idée pour sortir de la crise qui bloque le Parlement britannique depuis plusieurs mois et qui empêche de déclencher le Brexit. Cette solution, le ministre de l'économie, Philip Hammond, a passé la journée à essayer de l'imaginer avec plusieurs membres du gouvernement et de l'opposition, sans succès pour l'instant. La gauche veut que le Royaume-Uni reste, après le Brexit, dans une union douanière. La droite refuse catégoriquement. À moins de 24 heures du sommet de Bruxelles, Theresa May n'a pourtant pas le choix. En dernier recours, pour montrer au chef d'État des 27 sa bonne volonté, la première ministre pourrait accepter de mettre sur la table une proposition de deuxième référendum ou d'élection législative anticipée, au risque de faire exploser son propre gouvernement. Londres, Antoine Gignot, France Info.
Comme hier au Grand Palais à Paris, le Premier ministre est venu faire la synthèse du grand débat à l'Assemblée cet après-midi. Rebelote demain devant les sénateurs au Palais du Luxembourg, comme hier. Édouard Philippe a lancé le compte à rebours, celui des annonces présidentielles attendues dans les prochains jours. Des décisions immédiates, puissantes et concrètes, et l'ouverture de grands chantiers. En voilà les grandes lignes tracées cet après-midi par le chef du gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence demain et à huis clos sur la situation en Libye. Des combats se déroulent au sud de la capitale Tripoli depuis plusieurs jours. Ils ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de personnes déplacées. Les bureaux de vote ferment dans une demi-heure en Israël pour les élections législatives. Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, est candidat pour un cinquième mandat. Son principal opposant est un ancien général très populaire, le centriste Benny Gantz. Les derniers sondages donnaient les deux hommes au coude à coude. En Algérie, le remplacement d'Abdelaziz Bouteflika par Abdelkader Ben Salah, nommé ce matin par le Parlement au poste de président par intérim, ne calme pas les manifestants. Il continue de défiler en masse pour réclamer le départ du système. Âgé de 77 ans, Abdelkader Ben Salah est un proche de Bouteflika. Et puis en football, début des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, à partir de 21h, Tottenham face à Manchester City et Liverpool face à Porto. Demain, Manchester United et Ajax Amsterdam face à la Juventus de Turin. 20h33 sur France Info. Les informés, Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet de conseil Tenzing, et avec Franck Tapiro, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit, directeur général du laboratoire de marketing émotionnel Data Calab, ex aequo avec Albert Zenou, puisque vous avez tous les deux eu le même jeu de mots tout à l'heure.
Mmh. Ah non, c'est Albert qui a dit en premier. En tous les cas, Albert, c'est Albert.
Nous évoquions tout à l'heure donc les décisions attendues après la restitution du grand débat national. Et Édouard Philippe a annoncé lors de son discours cet après-midi à l'Assemblée que Emmanuel Macron allait prendre des décisions, je le cite, immédiates, puissantes et concrètes, et ouvrira des grands chantiers. Alors le premier d'entre eux, vraisemblablement, c'est la fiscalité. Sur les baisses d'impôts annoncées hier par le Premier ministre, voici les précisions de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était l'invité de France Info ce matin.
À mes yeux, la cohérence entre politique fiscale et politique économique pourrait nous amener à baisser en priorité l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui travaillent, la rémunération de ceux qui travaillent, en commençant par ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes, qui rentrent dans l'impôt sur le revenu et qui y rentrent de manière plus brutale.
Alors, Albert Zenou, pour bien comprendre, l'IR, c'est l'impôt sur le revenu, c'est on va dire le plus visible, ce n'est pas le plus rentable, non, on le sait. Rentable. Donc, c'est pour ceux qui travaillent.
C'est pour ceux qui travaillent, c'est l'impôt.
Bruno Le Maire.
C'est l'impôt qui fait le plus mal quand on doit le payer, en général. C'est une vieille idée qui a été annoncée déjà par beaucoup de à droite. Hein, c'était une idée droite, la baisse des impôts, notamment de l'IR. Nicolas Sarkozy avait fait campagne pendant la primaire de 2016 là-dessus, sur une baisse de 10% pour tout le monde de l'IR. Wauquiez a repris cette idée également. Enfin, c'est une vieille idée qui traîne. Alors, est-ce qu'il la fera véritablement? C'est pas sûr. On n'en sait toujours rien. C'est toute la difficulté de cette situation. Ça fait des mois. Enfin, il y a 4 mois de grands débats pour arriver à une exaspération fiscale. On le savait qu'il y avait une exaspération fiscale.
Oui. Donc 4 mois de crise, hein, puis donc les gilets jaunes, puis le grand débat.
Est-ce que toute la difficulté, ça va être de dire, est-ce que l'impôt sur le revenu, il sert à quoi? Comment le remplacer? Et puis, et surtout, en face, les dépenses, la baisse des dépenses.
C'est toute la question. Où
t'as pris les baisses?
Ouais, Yasmina Jaffar, à qui est-ce qu'il s'adresse, Bruno Le Maire, il dit cela aux classes moyennes, voilà. Classes moyennes sup?
Et ben, justement, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est qu'est-ce qu'une classe moyenne? Quand on s'est adressé aux retraités, on a estimé qu'à partir de 1 300 euros, ils étaient riches, et il y a eu une fronde totale qui, 1 200, qui fait que ça a été réévalué à 2000 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une classe moyenne? Il y a la classe moyenne supérieure, la classe moyenne inférieure. Il y a aussi les riches. À partir de quand on est riche? On sait en fait que le seuil de pauvreté.
Ceux qui travaillent.
4 200 euros pour François Hollande.
Attendez. Riche. Alors, question que je pose à l'économiste Éric Delannoy. Comment concilier donc les baisses d'impôts, la demande de plus de services publics? C'est ce qui ressort du grand débat. Et
et l'incapacité, il faut le reconnaître, des gouvernements successifs, hein, eh bien, de réduire, incapacité à réduire les dépenses publiques.
Mais c'est déjà de donner effectivement un cap sur l'impôt. Pourquoi on baisse les impôts? Mais attendez, enfin, pour le coup, quand Emmanuel Macron a fait campagne et quand il était élu, c'était extrêmement clair, c'était la fiscalité devait permettre de redistribuer du pouvoir d'achat. Donc je faisais quoi? Je prenais du pouvoir d'achat à ceux qui ne consomment pas, les retraités aisés, les seuils n'étaient pas bien faits en augmentant les CSG. En contrepartie de quoi? Je baissais les cotisations sociales de ceux qui travaillent et qui consomment, de manière à remettre dans le circuit du pouvoir d'achat. Là, il y a un objectif fiscal très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il faille baisser l'impôt sur le revenu, ce qui ressemble un peu à du clientélisme. En revanche, qu'on continue à aller vers d'autres impôts, parce que quand on parle de baisse des impôts, en fait, on parle de baisse oui. des impôts et des taxes globalement.
Oui.
Impôts locaux, impôts sur le revenu et aussi les cotisations. L'impôt sur le revenu, ça pèse 75 milliards. Les cotisations sociales, ça pèse 380 milliards. Ça veut dire que si on baisse les cotisations sociales, au lieu de baisser l'impôt sur le revenu, on touche à la fois l'entreprise, on lui permet de baisser le coût du travail et on touche le pouvoir d'achat du salarié. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire avoir un objectif économique et social plutôt qu'une forme de clientélisme pour répondre à une crise des gilets jaunes.
Alors Franck Tapiro, quand on annonce baisse massive de la fiscalité, il y a intérêt ce qui est du rendu à la sortie, quoi, non?
Oui, mais en fait, je pense qu'il y a une question d'image et de communication là aussi.
Mais la politique, c'est malheureusement trop d'image et trop de communication.
Je suis bien d'accord.
Et c'est
vous,
pas. Mais la réforme n'est jamais.
Justement le tri là-dedans. Je suis totalement d'accord avec vous, malheureusement. Je pense qu'en fait, on est un peu injuste parce qu'ils essayent quand même de faire quelque chose, puisqu'on sait très bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On sait très bien qu'on ne pourra pas avoir des bonnes mesures pour tout le monde. Donc ils essaient d'être juste. Et cette mesure, qu'on le veuille ou non, hein, elle n'est pas suffisante, elle est peut-être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, mais elle est juste de dire, on va baisser l'imposition de ceux qui travaillent, c'est juste, parce que n'oublions pas qu'ils pensent aussi a posteriori à l'impact qu'auront différentes mesures. Maintenant, évidemment, je suis totalement, en tant que chef d'entreprise, je peux vous dire, je suis totalement d'accord avec vous, sur les charges salariales, bien entendu, c'est là où il y a les plus grosses économies à faire. Mais, en termes d'économie, en termes de communication, c'est très bien aussi que, dès qu'on fait ça, on dit, on fait un cadeau aux entrepreneurs, et on dit même un cadeau de parfois aux riches, parce qu'on considère que les entrepreneurs sont riches. Quand on connaît la vie des entrepreneurs, on en est vraiment très très loin. Et donc, on joue malheureusement avec une probable réaction du grand public, et je pense que c'est un mauvais monitoring de la politique. Ouais, la politique se décide de façon juste, forte, quel que soit l'impact. Et si maintenant on a peur de donner de vraies grandes mesures, parce qu'on a peur de l'explosion des gilets jaunes dans un mois, je pense qu'on fera fausse route.
Ce qui se passe depuis 30 ans.
Alors, dis-nous.
Le gouvernement, et Édouard Philippe en particulier, Emmanuel Macron sur la même ligne, n'a pas oublié qu'il fait de la politique. Et donc, annoncer des baisses possible de.
Si elle n'arrive pas, c'est une catastrophe.
Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, on sera plus dans le déceptif.
C'est des annonces, mais très clairement.
Enfin, baisse massive des impôts, c'est quand même pas léger. C'est du lourd.
On sait qu'il y a un ras-le-bol fiscal et quelque part, ils disent que les gilets jaunes ont envie d'entendre et les Français ont envie d'entendre. D'ailleurs, juste petite phrase. Édouard Philippe a donc dit hier et avant-hier et aujourd'hui, les Français. Alors que pendant longtemps, ils n'avaient pas envie, ne serait-ce même que de s'adresser aux gilets jaunes. Subitement, pour cette mesure-là, il s'agit des Français qui se sont exprimés pendant 5 mois. Pas vraiment.
Bon, nous allons rester un petit peu, si vous le permettez, sur ces questions de fiscalité dans un instant. Tout d'abord, 20h40, nous marquons une pause avec le rappel de l'info, Solène Cresson.
Les bureaux de vote vont fermer dans une vingtaine de minutes en Israël. Plus de 6 millions d'Israéliens sont appelés aux urnes depuis ce matin. Élections législatives et scrutin décisif pour l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Aux commandes depuis 2009, il brigue un cinquième mandat, mais il est au coude à coude avec un parti du centre. En France, l'opposition joue la carte du référendum d'initiative partagée pour faire échouer la privatisation d'aéroports de Paris. 197 parlementaires de tous bords ont signé contre cette disposition du projet de loi Pacte. Pour aboutir à une consultation populaire, leur démarche doit être validée par le Conseil constitutionnel, puis être approuvée par 4,5 millions de citoyens. Un drame conjugal, malheureusement classique. Explication du procureur de Draguignan après le meurtre d'une femme de 50 ans samedi soir à Vidauban dans le Var. Le principal suspect, son mari, interpellé hier, un homme violent avec son épouse ces dernières semaines, est placé sous contrôle judiciaire. Les glaciers des Alpes risquent de fondre à
plus de 90% d'ici à la fin du siècle si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Résultat d'une étude de chercheurs suisses publiée aujourd'hui, alors qu'une autre étude publiée hier alerte sur une fonte des glaciers du monde entier plus rapide que prévu. Pour réduire la pollution justement à Lille, la préfecture prolonge la circulation différenciée dans toute l'agglomération. Demain, les véhicules les plus polluants ne pourront pas rouler. La vitesse s'est aussi abaissée de 20 km/h, tout comme aujourd'hui sur les routes et autoroutes du département du Nord.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Alors, je ne sais pas si la séquence politique que nous vivons produit du gaz à effet de serre. En tous les cas, on a l'impression qu'on assiste, Yasmina Jaffar, à une sorte de bras de fer au sein de la majorité. La droite macroniste est-elle en train de prendre la main sur ces questions fiscales?
Oui, totalement. Quand on voit les profils de Bruno Le Maire, Gérard Darmanin ou aujourd'hui Édouard Philippe, on voit bien que ce sont pas de méchants personnes de gauche, du tout. Ils sont très 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 à droite. Et là, ils le montrent aussi dans cette mesure fiscale. Et ils parlent de leur ADN là. Donc c'est le côté droit de Macron qui s'exprime et qui reprend la main. C'était le moment d'Édouard Philippe. Et puis je crois que nous recevons dans nos boîtes aux lettres les feuilles d'imposition là en ce moment. Donc ça tombe très bien au niveau timing.
Et nous, sur cet aspect des choses, peut-être alors ça nous intéresse, nous, les journalistes, mais pas seulement, parce qu'au fond, la réalisation de la réforme passe aussi par l'acceptation par tous de ce qui va être avancé. Alors, est-ce que la droite chez Macron est en train de prendre la main?
La droite chez Macron a pris la main depuis très longtemps. Ils sont là, ce sont les plus capés, ce sont les plus expérimentés politiquement, ce sont ceux qui font le plus de politique. Ils sont à la manœuvre. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu. La partie gauche existe aussi. On l'a vu dans les débats. Chez les députés, c'est beaucoup plus nuancé. On a vu lors de la loi anticasseur, il y a 50 députés qui ont refusé de signer cette loi. Donc, il y a un vrai clivage au sein de la majorité, de toute façon. Et il est réel. Donc, c'est une difficulté supplémentaire pour Emmanuel Macron. Lui qui pensait avoir un bloc inamovible et solide et solidaire. On s'aperçoit qu'il n'est pas si solide que ça.
Le clivage droite-gauche existe encore.
Je vous lis ce tweet dimanche de Benoît Simian, qui est député La République en Marche de Gironde, ancien socialiste, ancien membre du PS. Il dit les 80 km/h, la non-indexation des retraites et le recul de l'âge légal de départ n'étaient pas dans les engagements électoraux du président. Alors le programme, rien que le programme d'Emmanuel Macron, sinon la crise de l'opinion risque fort de ne pas s'apaiser. Éric Delannoy, c'est un député marcheur qui l'écrit noir sur blanc.
Mais vous savez, quand les députés marcheurs votent à l'unisson une loi, on dit que ce sont des godillots qui n'ont pas d'initiative, qui connaissent rien à la politique. Mais oui, mais c'est un fait, ça ne va jamais. Et quand ils expriment une forme de diversité, parce qu'au final, la seule opposition qui soit un petit peu cohérente, peut-être qu'effectivement elle est à l'interne du parti LREM. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les personnes s'expriment, les députés s'expriment. Mais c'est pas un clivage, ça s'appelle de la diversité. Il faut qu'on puisse le dire aussi, ça. D'accord. Quand on dit que le président est un président de droite, c'est vrai que le poids de Bercy est très important. Il a toujours été très important. Et c'est un sujet. Néanmoins, on peut pas dire que depuis 2 ans, il n'y a pas eu des réformes qui vont dans le sens du cap qui était très clair au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, qui était on libère les freins à la création de richesses et on forme et on protège les salariés. C'est comme ça qu'il a été élu et c'est ce qu'il a mis en œuvre. Et je pourrais redécliner, si on avait le temps, mais je pense qu'on ne va pas l'avoir, l'ensemble des mesures qu'on a prises. Le problème, vous savez, je vais terminer là-dessus, c'est que la plupart des grandes réformes qui ont été mises en place, elles ont été mises en place au moment de l'affaire Benalla. Elles ont donc été inaudibles. Et c'est ça qui est juste insupportable aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas une réalité précise de ce qui a été fait depuis un an.
Franck Tapiron, on conclut sur le sujet. Pas de frondeur en vue, si l'on en croit Éric Delannoy?
Non, mais moi je suis assez d'accord. Qu'il y ait des contrats, c'est intéressant. Alors on peut dire il y a du clivage, il y a de la fronde. Moi je trouve que tout simplement, il y a des gens aussi qui sont dans l'ADN aussi d'En Marche, qui aimeraient qu'on garde le courage du programme. Et c'est en ça que je trouve très intéressant ce qui est en train de se passer. Où on s'adapte, on essaie de policer un petit peu. Et in fine, quoi qu'il arrive, il y aura une déception. Où on se dit, écoutez, finalement, notre vue était la bonne. On a besoin de temps. Faites-nous confiance sur le temps, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. La politique a besoin de temps pour s'exprimer. Donc voilà, mais je suis d'accord sur la bénalisation, malheureusement, de certaines... Allez, j'ai eu ma petite phrase quand
c'est
même.
C'est pas mal.
Je peux pas laisser rester une prise comme ça.
Alors, allez, à moi d'inventer aussi. C'est l'heure du feuilleton intitulé Brexit Infinity. Épisode du jour, Theresa chez Good Cop et Bad Cop. La première ministre britannique, vous le savez, qui recherche accord désespérément à la veille du sommet européen à Capital, vient d'être reçue. Elle est reçue, pardonnez-moi, à l'Elysée par Emmanuel Macron. C'est le bad cop, le vilain policier. Mais auparavant, Theresa May, eh bien, a fait un détour par Berlin pour aller chercher le soutien d'Angela Merkel. C'est Madame Good Cop. La chancelière allemande a jugé impossible un report jusqu'à 2020 du Brexit. Donc, elle est plutôt conciliante. Mais le ton est différent à Paris. Eh bien, la France n'est pas opposée au report, mais préfère un délai plus court. Alors, pour le négociateur en chef de l'Union européenne, pour le Brexit, Michel Barnier, qui s'exprimait au Luxembourg ce matin, tout dépendra du plan que Mme Theresa May exposera demain.
La longueur d'une extension, c'est peut-être lié à l'objet. Pourquoi faire ? Et ça dépend de ce que Mme May dira demain aussi, hein, aux dirigeants européens. Le no deal ne sera jamais la décision de l'Union européenne. Nous avons travaillé pour un accord, pour un traité qui d'ailleurs est beaucoup plus qu'un deal, hein. 600 pages d'un traité précis qui apporte des garanties là où le Brexit crée de l'insécurité juridique aux citoyens en Irlande. C'est plus qu'un deal, c'est un traité.
Éric Delannoy, vous disiez hors micro, là, je vous entendais, heureusement qu'il est là, c'est ça ? Mais il y a de quoi s'arracher les cheveux quand même.
Oui, mais heureusement qu'il est là, je voulais dire ça parce que c'est quelqu'un qui est un grand professionnel, qui connaît ses sujets, qui connaît l'Europe, qui est un négociateur, et qui est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Enfin, on peut pas le taxer d'être justement un politique mou. Donc moi, je pense qu'heureusement qu'on a quelqu'un comme lui qui est négociateur, parce qu'il faut bien voir qu'il est l'instrument avec Emmanuel Macron et Angela Merkel du fait qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas explosé face à cette situation totalement ubuesque. Elle n'a pas explosé, l'Europe. À chaque fois, on vote comme un seul homme derrière les propositions qui sont données.
C'est le FMI qui prédit une catastrophe économique en cas de no deal.
En cas de no deal, la catastrophe économique, on ne sait pas trop parce que déjà, la Grande-Bretagne a pris les devants en disant qu'il n'y aurait pas de droits de douane sur quasiment 90% des produits qui sont concernés. Néanmoins, quand même, ça va compliquer complètement les choses, puisque au niveau institutionnel et au niveau des référentiels des certificats, tout explose. Donc on est dans l'incertitude. Et l'incertitude, l'économie déteste ça.
Ouais, Jasmina Jaffar, si un délai est accordé, ça signifie que les Britanniques vont voter aux européennes.
Oui, en effet. Et on a...
Ça, c'est drôle.
Ouais, il y a tellement de dates entre le 22, le 23, on ne sait plus où on en est, le 26 mai, oui, ils vont voter le 30 juin, enfin, on ne sait plus. En tout cas, Theresa cherche soutien désespérément, on le voit bien. Elle est à saluer, elle a une force juste incroyable. C'est vrai que vous avez totalement raison sur la présence de M. Barnier, il est incroyable, mais elle, en tout cas, ne lâche pas du tout l'affaire. Et Simone Veil disait, il est toujours utile de lutter, mais par moment, là, peut-être qu'il faut s'avouer vaincu, assumer simplement ce qui s'est passé et accepter. Et voilà. Mais c'est vrai qu'une sortie brutale serait une catastrophe pour tout le monde.
Albert Zenou, un vote britannique le 26 mai, enfin, ce serait quand même original. Bah,
c'est envisageable et voire envisagé si l'accord est envisageable, s'il y a un deal sur le report. Ce qui est incroyable, je reviens sur le bad cop, good cop. Effectivement, Emmanuel Macron avait toujours beaucoup plus intransigeant et d'ailleurs, a raison, pour les Anglais, contrairement à l'Allemagne. Mais c'est une intransigeance un peu calculée. Il y avait aussi dans cette volonté de montrer que on est intransigeant, c'est aussi une manière de faire aussi de la politique en France et dire, alors qu'on est à quelques semaines des élections européennes, de dire, regardez ce qui va se passer en Angleterre et en Europe s'il y a un Brexit.
Pour vous, c'est une attitude calculée, électoraliste.
Il y a un peu de calcul. Politique, électoraliste, il y a toujours un côté un peu négatif quand on dit électoraliste, mais en tous les cas, politique.
Allez, ça, Franck Tapiro, vous allez vous exprimer sur le Brexit juste après, à 20h50, sur France Info, le rappel des titres de l'info avec Solène Cressant.
Des milliers d'étudiants dans les rues d'Alger, la police qui lance des gaz lacrymogènes, nouvelle manifestation en Algérie, alors que le pays a un nouveau président, Abdelkader Ben Salah. Mais son visage est déjà bien connu, jusqu'ici à la tête du Sénat. Il doit assurer l'intérim pendant 3 mois en attendant des élections. Paris laisse entrevoir la possibilité d'un report du Brexit, mais demande des garanties. La première ministre Theresa May est à l'Elysée ce soir pour plaider un nouveau report du divorce. À la veille d'un sommet européen à Bruxelles, plus tôt dans la journée, elle a rencontré Angela
Angela Merkel, la chancelière allemande, juge, elle, possible un report jusqu'à début 2020. Pour résorber les campements de migrants parisiens où la situation se dégrade, l'État annonce la création d'un nouveau centre d'accueil à Paris. Aujourd'hui, des ONG se sont mises en grève pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics. Un an et demi de prison ferme requis à l'encontre du gérant du restaurant Casa Nostra, jugé avec un autre homme, pour s'être fait passer pour une victime des attentats du 13 novembre 2015. Il avait fait croire qu'il était présent dans son restaurant et avait perçu des indemnités. 3-1 pour les Crocos de Nîmes et ils affrontent Rennes pour un match en retard de la 27e journée de Ligue 1. À 21h, coup d'envoi des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Deux matchs au programme, Tottenham, Manchester City et Liverpool-Porto.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Franck Tapiro, je n'endors pas depuis hier soir, hein, depuis que je l'ai pris. Mais c'est vrai en plus. Les Britanniques votent, c'est pas bon pour l'image des Européennes
Je crois pas.
Non.
Je crois pas. Ça peut être aussi un sursaut, surtout pour les ennemis du Brexit. Bah, imaginez que ce vote soit pris un peu comme un référendum, comme le vote numéro 2. Vous savez qu'on a en Angleterre, il y a énormément de gens qui voulaient revoter. Donc prenez-le à l'envers. Moi, si j'étais aujourd'hui un leader anti-Brexit, je me disais, mais quelle opportunité extraordinaire de mobiliser les Anglais pour le dernier vote peut-être de l'histoire par rapport à l'Europe, pour montrer définitivement à quel point il y a une énorme manip et que finalement l'ensemble des Anglais sont contre le Brexit. Bon, j'en parle comme si j'étais leader de ce parti-là, mais voilà. Mais je pense qu'ils sont contents, une opportunité formidable. Deuxièmement, le fait de reporter, c'est vrai, ce deal, cet accord, tout ce qu'on veut, ça vient aussi perturber l'image des élections européennes. Pourquoi ? Parce qu'on montre à quel point, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Donc c'est quand même incroyable. Et c'est ce que reproche l'ensemble des Européens aux institutions européennes. Donc c'est pas une très très bonne communication. Mais je pense encore une fois que les Anglais, qui ont quand même pris en otage ce scrutin, pris en otage aussi tout ce qui se passe en Europe, ont peut-être une occasion, surtout les anti-Brexit, de montrer que, bah regardons, peut-être qu'on va donner un coup de panache. Moi j'aimerais bien que la majorité des Anglais anti-Brexit aillent voter en masse.
Allez, nous allons refermer ces informés avec ce qui pourrait être la vidéo du jour. Il est temps, il est presque 21h. Carlos Ghosn filmé en plan serré juste avant sa nouvelle incarcération, dénonçant un complot qui serait ourdi par les dirigeants de Nissan. Extrait de cette vidéo.
Je suis innocent de toutes les charges dont on m'accuse et je suis aussi innocent de toutes les accusations qui ont suivi. Elles sont toutes biaisées, sorties de leur contexte, manipulées pour me faire passer pour quelqu'un de cupide et de tyrannique.
Éric Delannoy, quelle image étonnante, nous ne sommes pas dans une série Netflix, Black Mirror, c'est le réel, c'est un ancien grand patron qui a fait des miracles.
C'est la chute d'un ancien grand patron.
Et qui se trouve sur fond blanc à essayer de sauver sa peau.
Bah, c'est exactement ça, en fait. Il a sa peau à sauver, son honneur à sauver. Enfin, c'est quand même, il y a un côté, malheureusement, très, très romantique et digne des séries. Ça me fait penser à l'affaire DSK d'une autre manière. DSK, c'était la politique. Carlos Ghosn, c'est les affaires. Je veux dire, c'est... Alors, il y a quelque chose d'un peu d'un peu triste dans le personnage que l'on voit là, parce que on avait quelqu'un de flamboyant qui a fait son mariage à Versailles, qui s'est versé 15 millions d'euros de salaire. Moi, je sais pas s'il est coupable ou pas coupable de ce qu'on lui reproche. Une chose qui est certaine, c'est que les chiffres qui sont annoncés, qui sont associés à lui, sont des chiffres qui ne sont pas tout à fait normaux. Donc que cet homme-là ait droit à un procès équitable, bien évidemment. Maintenant, qu'il soit cupide, c'est quand même une évidence, quand même. C'est presque pathologique.
Oui. Et c'est pour ça que quand il indique qu'on tente par un système de complot le faire passer par quelqu'un de cupide, oui, peut-être, il y a même de grandes chances qu'en effet, il y a peut-être en effet une volonté de Nissan de le mettre complètement hors course, mais aujourd'hui, la façon dont il a été traité, d'un point de vue juste des règles internationales au niveau des droits humains, c'est insupportable. Donc il utilise toutes les manœuvres, lui et son avocat, pour se faire entendre. Pourquoi pas cette bonne guerre ? On a même envie de dire, en effet, il utilise tout ce qui est possible pour faire entendre que peut-être d'autres vont trop loin. Mais s'il y a eu quelque chose de mal fait par rapport à ses financements et à ses envies de mettre de l'argent de côté, il faut qu'il soit puni pour ça, mais de façon normale.
Albert Zenou, dans cette séquence, dans cette vidéo, il ne dit rien sur ce qu'il lui reprochait, au passage.
Non, et c'est, là, je reprends un mot à la mode, en tous les cas employé par Edouard Philippe, c'est un peu déceptif. Il avait annoncé qu'il dirait qu'il avait ourdi le complot des noms. Bon, visiblement, il a pas de nom. Maintenant, est-ce qu'il est cupide? Je sais pas. En tous les cas, ça a été un très grand patron. Il a permis à Renault de se redresser. Il a permis à Nissan de se redresser complètement. Alors, il a gagné beaucoup d'argent. Mais il en a fait gagner beaucoup aussi. Et puis le procès qu'on fait aux autorités japonaises, il concerne tout le monde. Enfin, tous les prévenus japonais sont logés à la même enseigne.
Franck Tapiro, si on passe cette pour poursuivre ce qui est dur, c'est nous. Si on passe cette vidéo dans votre laboratoire émotionnel,
j'allais en parler, oui. Justement. Moi, j'essaie d'analyser ça uniquement sur le sens, sur la posture, sur la lumière aussi, une lumière très très blanche d'ailleurs. Vous avez vu, il n'y a aucun artifice. Je pense que c'est une volonté de montrer une forme de pureté et de concentrer déjà les regards sur la personne qui parle, donc c'est Carlos Ghosn. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué tout de suite, c'est la position des mains. On sait très bien que quand les mains sont jointes, ça montre évidemment une forme de malaise, une forme d'instabilité, et surtout qu'on est sur la défensive.
Alors, vous avez les mains jointes.
Je viens de le faire exprès. Absolument. Il y a des gens qui le font comme ça, qui se mettent en arrière. Alors là, c'est vraiment, d'ailleurs, il recule. Là, il est comme cela, il met les mains comme cela. Et puis, pour exprimer quelque chose, c'est les pouces qui parlent. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il aurait pu le faire avec les mains. Je crois qu'il était vraiment très stressé. C'est normal, faut se mettre à sa place. 9 minutes où il ne cite pas un nom, d'ailleurs. Il dit juste que c'est un complot. Et il le dit en plus. Je l'ai remarqué, et ça je pense que nos algorithmes auraient pu le repérer avec Data Calab. On avait repéré les émotions dans le visage de façon complètement précise. C'est des petits sourires. Il a un petit rictus. Il a, je pense, essayé de montrer qu'il était serein. Et donc comme il a du mal à le dire, à le faire comprendre, de temps en temps il souriait par moment. Donc je pense que c'est évidemment un petit peu maladroit, mais sinon... Allez. C'est pas non plus un exercice facile.
Il est temps de conclure. Yasmina Jaffar, que propose la ruchemedia.com?
Dans 2 jours, une interview de Julie Gayet qui propose son 3e volet sur le film Les Cinéastes. Après avoir fait Les Femmes, elle a fait Les Réalisateurs et maintenant c'est Les Femmes à l'international.
Albert Zedou, la Une du Figaro.
On pose la question sur le Brexit, un nouveau report, mais pourquoi faire?
Et c'est la grande journée demain. Et vous, Eric Delannoy, une annonce peut-être pour Tenzing?
Oui, de jeudi, nous remettons les prix Tenzing de l'égalité des chances. Nous distribuons nos bénéfices, 100 000 euros à 5 associations qui militent en faveur de la réussite scolaire à travers l'art, la culture et l'éducation.
Éric Delannoy, Albert Zenou, Yasmina Jaffar, Franck Tapiro, merci. Je vous retrouve pour ma part demain soir pour une prochaine édition des Informés de France Info. Bonne soirée.